au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde d'où vous nous écoutez, puisque sur Canal Académie, 40% de nos auditeurs nous écoutent hors de l'hexagone français. Vous nous écoutez peut-être d'Asie d'ailleurs, et peut-être même de Singapour. Et c'est la ville qui sera largement évoquée dans cette émission, puisqu'elle sert de cadre au roman de Françoise Thibault, Le pays du bonheur parfait. C'est un roman publié aux éditions Publibook. Bonjour Françoise Thibault.
Bonjour chère Hélène.
Merci de nous avoir rejoints dans le studio de Canal Académie. Vous êtes correspondant de l'Institut à l'Académie des sciences morales et politiques et vous êtes professeur émérite de droit civil à l'Université de Poitiers. Et le roman Le pays du bonheur parfait, ça n'est pas votre premier roman. Vous en aviez publié, à ma connaissance, deux auparavant, mais peut-être ne sais-je pas tout.
Non, je me suis lancée dans l'activité du roman après avoir quitté mes fonctions de professeur. J'ai trouvé que c'était plus raisonnable de ne pas mélanger les genres.
Alors, on doit vous accorder « Le japonais chante tous les matins ».
Exactement,
votre premier roman.
Oui.
Et puis « Brindilles de diplomatie » qui se passe dans le monde des grandes structures internationales et qui est fort amusant, puisque je l'ai lu, je peux en témoigner. Alors celui-ci, « Le pays du bonheur parfait » se situe donc à Singapour. Singapour, c'est une ville, disons plutôt une cité-État, mais qui comporte aussi 64 îles, je ne vous apprendrai rien, mais je me suis informée. On dit aussi que c'est une république indépendante depuis 1965. On en profite pour faire un petit cours de géographie. Et vous la connaissez parfaitement, cette ville. Pourquoi vous fascine-t-elle ?
Singapour est un souvenir très ancien. J'y suis allée pour la première fois, j'avais 9 ans.
Ah bon ?
Par bateau, sur un paquebot de la Cunard. Et mon grand-père exerçait des fonctions à Singapour et aux alentours. Et quand il a prévenu ma famille que cette ville était tout à fait vivable, j'ai accompagné ma grand-mère. Donc je n'en ai aucun souvenir, j'ai simplement un souvenir de grande chaleur humide et du débarquement à Singapour, puisque à l'époque, on n'accostait pas à Singapour, les bateaux de grand format restaient en foraine dans la baie et on était débarqués sur des chaloupes. Et c'était très impressionnant pour un enfant.
Alors Singapour, vous l'écrivez dans votre livre, c'est la page 184, c'est le pays du bonheur parfait où la sérénité et l'harmonie dominent les rapports humains. Est-ce que ce n'est pas une totale illusion, ça ?
Pas du tout. C'est un endroit très paisible, Singapour. D'abord, le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour que ce soit un endroit sans agressivité.
Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'interdits à Singapour.
Oui, hein. Oui. Néanmoins, je crois que les Français ont une vision très obsolète de Singapour. C'est un régime qui a été très sévère à son début parce que c'était nécessaire. Il fallait remettre la ville en route qui avait été terriblement abîmée par l'occupation japonaise. L'économie était désastreuse. Et il fallait surtout discipliner toutes ces populations d'origine extrêmement diverse, mais de manière dominante chinoise, et les habituer à vivre ensemble et à avoir des comportements civilisés. Les Chinois, je ne vous apprendrai rien, sont des gens qui ont un peu tendance à manger toute la journée, jeter tout et n'importe quoi partout, ne pas avoir vraiment conscience du minimum d'hygiène très souvent. Et il fallait apprendre aux gens à vivre ensemble, ce qui n'était pas évident. Donc il y a eu un régime très sévère pendant une génération et demie, deux générations. Et puis quand l'économie et le bien-être urbain ont commencé à être établi, ce régime s'est très largement amolli. Actuellement, je dirais même qu'il y a des débuts dans la très jeune génération de véritable indiscipline.
Bon, Voilà. On le note.
Cela étant, qu'il soit défendu de jeter ses mégots partout c'est et de cracher bien. Par terre, c'est plutôt bien.
François Thibault, les personnages de votre roman sont comme tous les personnages de roman, c'est-à-dire fascinants, mais eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont à l'image de ce que vous décrivez à l'instant, c'est-à-dire ils sont de diverses origines, de nombreuses nationalités. Alors, il y a Raïm l'Indien, par exemple.
Oui, Singapour vit sur 4 communautés principales. Les Chinois, qui sont la communauté dominante, les Malais, les Hindous, originaires principalement d'Inde du Sud, et ceux qui restent des Occidentaux, notamment de la colonie britannique. Et ces 4 communautés sont habituées à vivre ensemble et à avoir des échanges importants. À cela s'ajoute maintenant une présence japonaise assez importante et des Indonésiens qui sont principalement occupés à être ouvriers et manutentionnaires.
Alors on va donc, je vais citer quelques-uns de vos personnages parce que donc Raïm l'Indien, c'est un homme d'affaires et son épouse, le couple ne va pas très bien. Midori, elle est japonaise, elle fait semblant d'être déséquilibrée d'ailleurs, mais elle n'est pas si déséquilibrée que ça.
C'est une tricheuse.
Hein. C'est une tricheuse, voilà. Il y a Margaret Fletcher qui, comme le nom l'indique, est britannique, elle est même une ancienne résistante, je crois. Il y a Kumar qui est malais, alors lui, franchement bizarre, hein. Ben, il en faut dans les personnages de roman, lui il nous déroute complètement. On ne sait pas si c'est un assassin ou un pauvre homme. Enfin, on est un peu perdu. Il y a même une bonne sœur, Mère Patrick, sans doute parce qu'elle est un résidu de présence religieuse.
Oh, ce n'est pas du tout un résidu de présence religieuse. Les communautés religieuses chrétiennes, quelle que soit leur obédience, catholique, orthodoxe ou protestante, sont extrêmement présentes en Asie du Sud-Est. Et en particulier à Singapour, où une grande partie de l'éducation est faite par des communautés religieuses et où il y a un certain nombre d'hôpitaux également dépendent de congrégations. Et la présence des missions et des congrégations est très très forte dans ces pays.
Et puis il y a un inoubliable colonel japonais dont je vais essayer de prononcer correctement le nom, Oshinomi Okaa.
Non, Oshinomi Okoa.
Alors ça y est, on y arrive et qui tient prisonnière une Anglaise, Suzanne. Alors là, on ne doit pas être dans la même époque parce que certains de vos personnages, on peut les situer aujourd'hui, mais là, on est dans la période de l'occupation japonaise, c'est-à-dire après 1942.
Eh bien, dans le roman, Margaret Fletcher, qui est une des héroïnes contemporaines du roman, est la fille de cette Britannique qui a été résistante et prisonnière de l'occupant japonais. C'est un personnage qui n'est pas tout à fait inventé. Il y a eu un nombre non négligeable de familles britanniques qui ont beaucoup collaboré à la résistance anglaise en Asie du Sud-Est et également des religieux et des religieuses d'origine ou anglaise ou hollandaise ou australienne ou française même, qui ont beaucoup fait pour renseigner notamment les Britanniques, puisque Singapour, pendant l'occupation japonaise, est resté le centre de renseignement des Britanniques pour la zone Pacifique Asie du Sud-Est. Donc c'était un lieu, d'abord Singapour est un lieu stratégique depuis 5 siècles, et c'était un lieu de rencontre d'un certain nombre de réseaux importants qui ont beaucoup contribué à la déconfiture de l'occupant à partir de 1944.
Alors, qu'est-ce qui vous a le plus amusé, Françoise Thibault, dans ce roman ? Est-ce que c'est de reprendre la vérité historique et de la transformer en roman ? Ou est-ce que c'est d'inventer des personnages et de voir comment ils se mêlent les uns aux autres ?
Oh là, vous demandez un peu les secrets des auteurs,
voilà,
je dirais.
Voilà, oui, c'est un secret d'auteur.
Moi, j'écris légèrement des choses légères et ça s'est fait un peu par inadvertance. Ça s'est fait de deux manières. J'ai été extrêmement intéressée par la congrégation à laquelle appartient Mère Patrick, qui a énormément contribué à résister à l'occupant et qui a été le siège du réseau de renseignement britannique. D'ailleurs, un certain nombre de femmes ont été emmenés, c'est ce que je raconte dans le livre, dans un camp au nord de Kuantan, en Malaisie, et il y en a très peu qui sont revenus.
C'est terrible ce que vous décrivez. Enfin, ah, mais vous me direz que les camps de prisonniers, c'est jamais très gai, mais enfin,
c'est
là,
la stricte réalité.
Très dur.
Le camp de prisonniers de Changi, où maintenant il y a, paraît-il, le plus bel aéroport du monde, ce qui ne doit pas être loin de la réalité, a été un des camps de prisonniers parmi les plus atroces de tous les temps. Ça a été effrayant.
Donc le pays du bonheur parfait, tout de même, il a eu des périodes sombres.
Oui. Singapour a un passé qui a des périodes très sombres. Alors, il y a cette
Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir.
Je me suis demandé comment on pourrait exploiter un peu cet univers passé. Et puis, l'idée, l'intrigue même du roman m'est venue, je crois, en regardant les gens dans la rue, en me promenant, en rencontrant des Singapouriens d'origine très variée et en côtoyant la vie quotidienne des Singapouriens. Ça fait maintenant, je crois, plus de 18 ans que je vais tous les ans habiter une partie de l'année à Singapour. Donc je commence, si tant est qu'on connaisse vraiment une grande ville ou une société à laquelle on n'appartient pas, je commence à bien connaître la vie des Singapouriens. Donc c'était amusant de mélanger tous ces gens d'origine différente, de me moquer un petit peu des Occidentaux, entre autres des Français.
Qui en prennent pour leur grade.
Des vieux Britanniques qui restent à la colonie, de me moquer un peu aussi des Malais qui sont pris souvent pour un peu des gens légers sur lesquels on ne peut pas trop compter, et de décrire un peu la vie quotidienne à Singapour.
Oui, c'est en effet du quotidien avec beaucoup. Vous avez un grand sens de l'observation de ce qui se passe, en effet, dans les rues, les costumes, ce que font les gens. C'est très quotidien et en même temps, on apprend des choses sur l'histoire. Mais ce n'est pas un livre d'histoire, c'est vraiment un roman.
Ben je l'espère. Enfin, ceux qui l'ont lu et qui m'en ont fait critique jusqu'à maintenant m'ont dit que c'était à la fois intéressant et amusant. Alors, tant mieux.
Voilà deux critères qui sont en effet très valables pour inciter nos lecteurs à s'immerger totalement dans le monde de votre roman. Quand on a envie de se dépayser, c'est réussi. Alors, tous les ingrédients d'un bon roman sont là. Le pays du bonheur parfait, c'est Françoise Thibault et c'est publié aux éditions Publibook. Merci, à bientôt.
Merci Hélène Renard.